foi qu'une rencontre avec Jésus ne laisse personne indifférent. Amen. Il est vraiment ressuscité. Yes. Alors, je ne vais pas faire très long, ce sera un court message, mais une forme de rappel, avec courtement résumé trois récits de résurrection qu'on trouve tous dans l'évangile de Jean, où il y a une rencontre justement avec la résurrection, mais de différentes manières. Et je prie vraiment que ces récits soient pour vous une source d'encouragement dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui ou peut-être celle dans laquelle vous serez demain. La première histoire, c'est l'histoire de Jésus et une certaine Marie. On retrouve ce récit dans Jean 11. Est-ce que je peux avoir la première slide, s'il te plaît, Pavel ? Pavel, la première slide, s'il te plaît. Donc, Jésus et Marie dans Jean 11. Donc, en fait, Marie, c'est la sœur de Marthe et Lazare. Et dans Jean 11, donc, Jésus faisait des miracles, il prêchait, guérissait les malades un peu partout. Et puis, il apprend que Lazare, son ami, est malade, qu'il est même mourant. Et donc, il va se rendre à Béthanie, où habite justement Lazare avec ses deux sœurs. Et arrivé à Béthanie, on lui apprend que Lazare est mort. Donc il fait d'abord la rencontre de Marthe, qui vient à sa rencontre, qui lui dit « Mais si tu avais été là, mon frère serait vivant. » Et puis finalement, il dit « Mais est-ce que tu crois qu'il peut ressusciter ?» Elle dit « Oui, je crois. » Donc Marthe témoigne d'une foi assez impressionnante, malgré les 4 jours qui ont suivi déjà la mort de son frère. Et juste après, Marie vient à sa rencontre, parce qu'il l'appelle, parce que alors que Jésus est arrivé, Marthe sort de la maison, mais Marie reste à la maison. Elle sait que Jésus est là, mais pour elle, c'est comme si voilà, le sort de son frère était déjà scellé. Et du coup, Jésus l'appelle, et il est dit dans les versets 32 et 33, « Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. » Et donc là, la réflexion de Marie s'arrête à ça. Contrairement à sa sœur, sa pensée reste au fait que son frère est mort et que si Jésus avait été là avant, il serait vivant. Et donc, ouais, que Marie connaissait Jésus. Elle savait qu'il était la vie. D'autres passages nous expliquent comment il est allé une fois chez elle et qu'elle a passé son temps à ses pieds en train de l'écouter et à recevoir vraiment cette plénitude en elle. Mais là, alors qu'elle sait que Jésus est la vie, elle ne réalise pas qu'il est aussi la résurrection. Pourtant, Jésus l'avait annoncé à plusieurs personnes déjà auparavant, mais elle voyait déjà la mort de son frère comme, voilà, c'était la fin. Et puis des fois dans nos vies, on est un peu comme ça. On vit des situations des fois catastrophiques qui nous chamboulent, qui chamboulent le cours de notre existence. Et on perçoit les choses, voilà, je suis arrivée au bord du gouffre. Et là, il n'y a rien qui peut me rattraper, il n'y a rien qui peut permettre que les choses soient reviennent en arrière ou soient aillent de l'avant dans une perspective nouvelle. Et ce qui est encore plus impressionnant dans cette histoire, c'est que, en fait, au verset 35, on voit que la réaction de Jésus, c'est qu'il se met à pleurer. C'est curieux, n'empêche, quand on y pense. Parce que Jésus, il est la résurrection et la vie. Il est capable de ressusciter. Mais il n'est pas en train de juger. Il n'est pas en train de dire, mais pourquoi tu ne crois pas? C'est moi la résurrection et la vie, tu devrais croire. Alors qu'il savait qu'il était capable de ressusciter, il a quand même fait preuve de compassion. Et il s'est mis à pleurer avec ceux qui pleurent. Alors je ne sais pas, peut-être aujourd'hui ou par le passé, tu es passé par une situation peut-être de mort, quelle qu'elle soit, ça peut être un proche, une situation, un emploi, une relation qui s'est éteinte et puis depuis, tu es un peu au bord du gouffre et tu te dis « mais je ne m'en sors pas, mon cœur est toujours dans la peine ». Et puis des fois dans l'église, on veut essayer de s'encourager de la bonne manière entre chrétiens et on dit « mais il faut que tu aies la foi, il faut que… etc. » faut vraiment. Et puis des fois, on peut se sentir un peu jugé et ce n'est pas forcément d'une mauvaise intention. Mais je crois qu'en tout cas, Jésus, ce matin, veut dire à quelqu'un, non seulement je suis la résurrection, mais dans ta situation, reçois aussi ma compassion. Je sais que tu souffres, je sais que cette situation t'a amené des fois dans tes retranchements, tu t'es posé beaucoup de questions, mais alors que je suis la résurrection, je suis aussi la compassion. Amen. Et ce qui est plus beau, encore dans cette histoire, c'est qu'on voit que Jésus littéralement ressuscite Lazare. Ils vont jusqu'au tombeau, ils disent « ouvrez-le », ils disent « mais ça fait 4 jours, ça sent un peu quand même, c'est un peu compliqué, 4 jours, ouvrez-le ». Il dit « Lazare sort », et Lazare sort. Jésus ressuscite Lazare. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de mort sans résurrection. Je vais souvent répéter cette phrase, c'est la seule que vous allez retenir ce matin, mais sachez qu'avec Dieu, il n'y a pas de mort sans résurrection. Amen. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Jésus et Marie, ou Marie et Jésus. Là, c'est une autre Marie, c'est Marie de Magdala, et on est dans Jean 20, qui est le récit de la résurrection. Donc le dimanche, Marie de Magdala, donc l'histoire est centrée sur sa personne un peu au début, elle va jusqu'au tombeau, elle voit qu'il est vide, et puis elle se met à pleurer, elle se dit « mais on a volé le corps de mon Seigneur ». Je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» n'est-ce pas ? Et là, elle tombe sur deux anges, n'est-ce pas ? Elle rentre dans ce tombeau, elle tombe sur deux anges, elle ne comprend pas trop ce qui se passe, mais au verset 14 à 16, il est écrit « en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant, tu veux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Pavel ? Merci, je recommence versets 14 à 16. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, ce qui est assez marrant d'ailleurs, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Donc en fait, Marie, elle fait la rencontre du Jésus ressuscité, mais elle ne le reconnaît pas tout de suite. Il a fallu qu'il l'appelle par son prénom afin qu'elle réalise que c'est lui. Et vous savez, des fois, on peut avoir des promesses dans nos vies, et puis Jésus avait fait des promesses. Il avait dit qu'il serait ressuscité. Mais quand on voit que les choses ne changent pas, qu'elles sont vides, qu'on rentre un peu mentalement dans ce tombeau vide, on dit, voilà, mais tes promesses, Seigneur, tu m'avais dit que je vivrais ça dans ma vie, que ma famille vivrait ça, que mon frère vivrait ça, que moi, je vivrais ça, et il n'y a rien. Mais Jésus est là. Il est nécessaire qu'il nous appelle par notre nom pour qu'on réagisse. Et c'est un peu aussi l'histoire de Paul, n'est-ce pas ? Quand Paul, c'est sur le chemin de Damas, il fait la rencontre de Jésus, Jésus l'appelle par son nom. Il dit, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et donc on voit que la résurrection, ce n'est pas juste un événement historique, oui, ça marque notre foi, mais en vrai, la résurrection, c'est vraiment une rencontre où Jésus vient nous appeler par notre nom, de manière individuelle, pour nous amener à lui. Et des fois, quand on ne le voit pas, on perd en vue ses promesses. On s'est dit, c'est vide, ça n'existe plus, j'ai plus d'espoir dans ma vie. Mais lui nous appelle par notre nom et il ravive l'espérance. Des fois, ça peut prendre du temps, hein, n'est-ce pas ? Là, on se dit quand même que les disciples, ils ont vu leur Messie sur une croix, mourir dans d'atroces souffrances. Donc le choc, il est terrible. Et pourtant, il avait déjà parlé, mais c'est comme si le choc psychologiquement leur empêchait de se rappeler des promesses de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous questionner, quelles sont les promesses de Dieu que Dieu t'a données ? Peut-être ça fait des années, et puis tu te dis, mais non, maintenant j'ai oublié, j'ai rien vu passer, et puis voilà, maintenant je m'en fiche. Mais en tout cas, je crois que ce matin, le ressuscité t'appelle par ton nom et te dit peut-être pourquoi as-tu douté ? Pourquoi doutes-tu ? Crois-tu vraiment que je sois la résurrection, celui qui peut ramener à la vie toutes les promesses que je t'ai données et que je vais accomplir surtout ? Amen. Donc avec Dieu, il n'y a pas de mort sans
résurrection.
Amen. Amen. Le dernier récit, c'est dans Jean 6, donc on retourne un peu en arrière. Donc bien avant sa mort et sa résurrection, Jésus justement annonce les choses suivantes. Il dit, en effet, tu veux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Pavel, merci. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Donc on voit que le plan ultime, final de Dieu, c'est que la résurrection de Jésus soit aussi la nôtre. Jésus, il n'est pas ressuscité pour lui-même. Ce serait un plan hyper égoïste. Juste une vanité, genre voilà. Je vous l'avais dit, I am alive. Et ça s'arrête là. On aurait écrit des livres d'histoire impressionnants. Il y a un homme il y a 2000 ans qui est ressuscité, incroyable. Mais sinon, quel est l'effet? Non. Il est ressuscité réellement pour nous. Donc ça commence déjà à la croix. Quand on reçoit cette œuvre de la croix dans notre vie, cet héritage de Jésus crucifié et aujourd'hui ressuscité, on reçoit aussi cette résurrection et on reçoit aussi cette vie éternelle. Dieu nous promet, peu importe les situations, il y a des gens qui vivent des choses atroces dans le monde, n'est-ce pas ? Mais l'espérance que nous donne la foi en Jésus-Christ dépasse les réalités terrestres. On rentre dans une réelle éternité. Et j'aime beaucoup quand il dit « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. » Dieu n'a pas envie, Jésus n'a pas envie de te perdre. Son cœur, c'est de t'avoir proche, très très proche de lui. Et c'est exactement pour ça qu'il s'est donné, et c'est pour ça qu'il a été ressuscité. C'est pour ce ministère de réconciliation auquel il nous appelle, mais que lui-même a accompli. Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire qu'il n'a fait lui-même. Que ce soit l'amour, la réconciliation, le pardon, la résurrection, et la liste est très longue. C'est que des choses que lui-même a accomplies et qui nous appellent aussi à témoigner. Mais pour revenir à cette dimension d'éternité, d'espérance, donc il y a cette vie éternelle. Quand on est en Christ, on la reçoit déjà maintenant. Mais un jour, chacun d'entre nous mourra, n'est-ce pas, physiquement ? On ne sait pas quand, comment, dans quelles circonstances. Mais en tout cas, dans cette vie éternelle, le Seigneur nous promet un lieu, n'est-ce pas ? Une cité, un nouveau ciel, une nouvelle terre, n'est-ce pas ? Et dans ce lieu, il est dit dans Apocalypse 21, verset 4, qu'il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.
Amen.
Amen. Vous savez, j'ai une personne qui m'était proche, qui est décédée maintenant depuis quelques années, et j'avais été très marquée parce qu'en fait, c'est une personne qui a, toute sa vie, elle a souffert. Toute sa vie. Tout ce que quelqu'un désire vivre de commun, comme le fait de pouvoir se marier, avoir des enfants, c'est quelque chose qu'elle avait beaucoup à cœur, mais qu'elle n'a jamais pu vivre. Et du coup, toute sa vie, elle l'a donnée aux autres. Elle a eu de nombreux enfants spirituels à qui elle a donné vraiment tout son temps, toute son énergie. Et puis, vers la fin de sa vie, elle est tombée un peu dans une forme de dépression, avec l'âge aussi, elle est devenue un peu sénile, mais par la grâce de Dieu, elle est quand même restée, disons, dans les voies du Seigneur. Et le jour de ses obsèques, je me suis dit, mais... Puis elle essayait du Covid, donc voilà, dans des circonstances aussi très compliquées. Et le jour de ses obsèques, un membre de sa famille a donné son témoignage, qu'elle avait déjà scellé depuis longtemps. Elle a dit, le jour où je décède, voilà ce qu'il faut faire. Et en fait, elle a été très honnête. Elle a décrit sa vie de souffrance. Elle a décrit sa vie de souffrance, qu'elle a grandi au plein milieu de la guerre, qu'elle a perdu ses deux parents très jeunes, qu'elle a passé sa vie à donner, sans recevoir le peu forcément qu'elle aurait espéré. Et puis à la fin, elle citait vraiment ce passage de Paul qui disait que par ma vie ou par ma mort, que le Seigneur soit glorifié. Et dans l'espérance dans laquelle elle est rentrée après sa mort, elle hérite aussi de ça. Qu'il essuiera toutes ses larmes, que la mort pour elle ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Bon, je crois qu'il y a une espérance pour les gens qui sont en vie, qu'aujourd'hui tu es vivant, il y a des promesses que Dieu va encore accomplir dans ta vie, mais pour celles qui ne sont peut-être pas encore arrivées, ou pour les choses peut-être que tu désires et que tu ne vivras peut-être pas, je ne sais pas, je ne peux pas te promettre aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que dans l'éternité, ton héritage, c'est aussi celui-là. C'est le même. Qu'il essuiera toutes tes larmes. Que la mort ne sera plus. Que tu ne seras plus dans le deuil, ni dans le cri, ni la douleur. Parce que ce qui existait, désormais, a disparu. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de mort sans...
résurrection.
Alléluia. Donc Dieu a vraiment compassion de notre condition, tout en prévoyant une solution. Dans chaque situation, Dieu prévoit une solution, et cette solution, c'est Jésus. Dieu tient ses promesses et nous appelle aussi par notre nom. La résurrection, c'est vraiment une rencontre avec Jésus-Christ, avec le ressuscité. Et cette résurrection, c'est le connaître. Et le connaître, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est
la résurrection.
Oui, c'est Dieu, mais oui, c'est la résurrection. C'est Dieu. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de mort sans
résurrection.
Amen. Voilà ce que vous devez retenir. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. J'avais à cœur de prier ici pour toutes les personnes, parce que c'est vrai que ce jour, on est dans la joie et il faut l'être. Mais peut-être que toi, tu n'es pas venu dans la joie. Peut-être que ta situation te fait dire, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment tout ça? Est-ce que c'est que des fables, de la mythologie? Moi, je n'ai jamais vraiment expérimenté. Ma vie prouve plutôt le contraire. Mais je veux prier, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu aimes profondément et que tu ne veux pas perdre, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment que par ton esprit, vraiment que tu appelles des vies à toi, Seigneur, et que ces personnes puissent avoir le courage ou prennent la décision de te répondre, Seigneur. Parce que plein d'entre nous ici, on peut les témoigner, c'est que le jour où nous disons oui à Jésus, c'est la meilleure décision que l'on peut prendre. Alléluia, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de toucher des cœurs, Seigneur, de restaurer aussi des vies. Oui, à cette espérance dans l'éternité, Seigneur, dans la vie éternelle, mais déjà aujourd'hui, tu es capable et tu veux aussi sécher des larmes, Seigneur. Tu veux redresser aussi des gens qui ont été courbés par les soucis, par les problèmes, par les conflits, Seigneur, afin de raviver l'espérance au travers de cet esprit qui a réveillé Jésus des morts. Alors, Seigneur, je prie vraiment que ta joie surnaturelle, Seigneur, vienne se loger, Seigneur, dans les cœurs qui crient vraiment, qui ont besoin de recevoir cette joie, que tu viennes faire habiter, Seigneur, ta vie dans toutes les personnes, Seigneur, qui vivent dans une forme de sécheresse spirituelle, que tes fleuves d'eau vive, Seigneur, viennent se déverser, Seigneur, dans ces vies, afin vraiment que toute terre vraiment soit comme ramollie, Seigneur, et que toute graine qui a été plantée puisse germer, grandir et porter du fruit, Seigneur. Tu es un Dieu de vie, tu n'es pas un Dieu de mort, tu es la résurrection, Seigneur, et avec toi, il n'y a pas de mort sans résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.